Session de philosophie par le père Philippe à Saint-Jodard le 11 juillet 1990.
Le troisième jour de la session, ça doit être le jour où on veut creuser plus profondément pour toucher comme ce qui doit nous aider au plan philosophique. Je vous disais hier, l'expérience du corps vivant de l'homme, de notre corps vivant. Ces diverses expériences que je vous citais, qu'il faut rappeler, qu'elles faut tout le temps venir. Le philosophe est très attentif à l'expérience. Il sait très bien qu'il ne faut pas demeurer dans l'expérience. Il y a un danger de s'enliser dans l'expérience, surtout le point de vue de la souffrance. Mais il faut quand même demeurer dans toute la complexité que cette expérience, la respiration. Et c'est curieux que les expériences internes ont très besoin de l'aspect négatif. Alors, ne cherchez pas à avoir l'expérience négative de la respiration, parce que vous ramasserez tous à la fin du cours, vous seriez tous par terre. Surtout pas faire ça. L'expérience de la nourriture, c'est bon, de temps en temps, même au plan philosophique, faire une grande marche, on ne mange pas. L'expérience du jeûne, c'est bon, c'est très à la mode. Parce qu'on est dans une civilisation de consommation, on mange beaucoup trop. C'est toujours un petit peu comme des bébés. Prendre des repas avec les anges. Le menu est très varié. C'est ce que j'ai eu à faire. Pédagogie divine. Toute une journée sans manger pour donner après ce repas des petits pains frais et du poisson frais. Très lié au corps, là. Mais il y a quand même une immanence, l'assimilation. Le vivant assimile. Et notre corps vivant est un corps capable d'assimiler, de respirer. C'est comme une expérience très importante. Premier moment de la respiration qui donne l'autonomie du vivant. Il vit d'un milieu. Mais il y a une autonomie. Et la nourriture montre à la fois la dépendance et on assume pour soi. On assimile pour soi. J'emporte ma nourriture avant le petit déjeuner. Et ça me donne un nouvel élan. Le semovere, celui qui se meut. Et donc qui acquiert son autonomie. Il y a une victoire permanente de la vie. La vie implique sa victoire. Si la vie implique la lutte, elle implique quelque chose de plus que la lutte. La lutte me donne le sens très fort de mon conditionnement. Ça c'est sûr. Je suis conditionné, dépendant d'un milieu. Mais en même temps, je suis victorieux ce milieu. Je le conquiers tout. Et puis il y a ce phénomène tout à fait particulier du corps vivant qui est capable de sentir. ça c'est vrai, c'est une autonomie beaucoup plus grande alors. Tout ça mène de sentir où je connais, je vois. La vue me donne un sens extraordinaire de réalité lointaine qui pourtant me parviennent. Je vois les étoiles. Et je vois des personnes tout proches de moi. Et la dualité, tout de suite, avec la connaissance, les deux yeux. Remarquez, déjà au point de vue végétatif, il y a les deux. C'est très curieux, comme la vie implique tout de suite une dualité inscrite dans le corps. On peut se demander, il faut la constater, mais on se demandera pourquoi ça. Pourquoi cette dualité? Pourquoi les deux poumons? Alors dit un qui vient, s'il y en a deux, comme s'il y avait deux roues, on peut en vendre un, puis on peut vivre avec un seul. C'est sûr, on peut vivre avec un seul. Mais il y en a deux quand même. Et rien n'est vain dans les réalités naturelles habituellement. Alors vous retrouvez cette dualité dans le point de vue de la vision, le toucher. Alors la main à la droite et la main à gauche, on en a parlé de ça. Il faudrait en faire la philosophie du reste. Je me souviens à Fribourg, j'avais lancé un jeune étudiant là-dessus, ça n'a jamais abouti du reste, parce que c'était pas commode. C'était parti de la gauche et la droite au plan politique. C'est peut-être pas par là qu'on doit commencer. C'est peut-être beaucoup plus profondément, voir des choses beaucoup plus radical. Et c'est intéressant, il y a une dualité qui est importante à voir dans le vivant. Alors la connaissance du toucher et de la vue, l'immédiate de la toucher, du toucher, et au contraire, et ça je crois que c'est tout de suite, la connaissance du corps humain. Permet au vivant, à l'homme, d'avoir un sens de l'infini, un sens de l'horizon, comme on dit aujourd'hui, et le sens de l'immédiat. Le phénomène de la connaissance, c'est dans le corps, la sensation est dans le corps, un corps alors connaître le corps, c'est indispensable. Je ne peux pas connaître le corps si je ne connais pas l'œil. Il faut voir des spécialistes des yeux. C'est toujours très intéressant et impressionnant. Des hommes qui passent toute leur vie à connaître l'œil. Le toucher. Alors, tout l'aspect affectif qui naît à partir de là. Le corps me lie. Sensibilité, par le toucher et la vision. Je suis à la fois autre et en même temps, il y a un appel de communion. Alors voyez la différence, l'œcuménisme de la matière et la communion, l'aspect fondamental de l'appartenance au monde entier. Je dépends, dont je pâtis. Et cette intériorité qui se fait par la connaissance, tout de suite, dès que la vie intervient, il y a intériorité, immanence, intériorité. Et cette intériorité augmente avec la connaissance, et cette intériorité augmente avec le point de vue affectif. L'intériorité de la connaissance va aller plus loin encore. L'imagination, la mémoire. Alors là, je fais appel à des organes beaucoup plus subtils. Tout le cerveau, la tête. Et je sais la complexité du cerveau humain comparativement à l'animal. Oui, il y a là quelque chose qui me fait entrer dans un corps qui est psychique, qui n'est plus la chair, qui est quelque chose de déjà spirituel. Il y a quelque chose de spirituel dans la connaissance, dans toute connaissance, et c'est pourtant le corps, puisque la connaissance se passe dans l'organe, et indispensablement liée à l'organe. Et il y a quelque chose de spirituel. Et il y a une diversité, mais une diversité organique. C'est plus la multiplicité et l'anarchie de la matière. C'est organisé à l'intérieur. Et toute ma connaissance sensible est organique. Ils sont liés. Il y a des répercussions des sens par rapport aux autres. À tel point que il y a comme un sens commun. Le sensus communis dont parle Aristote, qui n'est pas du tout le sens commun dont parle Descartes. Tout à fait autre chose. Il serait intéressant là aussi de comparer les deux. Parce que Aristote veut saisir et il y a quelque chose de juste. Je peux faire des analogies, des comparaisons entre le toucher et la vue, entre l'odorat et le goût, entre l'ouïe et le toucher, et l'ouïe et la vue. La signification descriptive au niveau descriptif, au niveau de l'expérience. Quand vous écoutez un aveugle qui n'a pas la vue, un aveugle de naissance, hein, parce qu'un aveugle qui n'est pas un aveugle de naissance, il y a tout le point de vue de l'imagination et tout le point de vue de la mémoire qui demeure. Tandis qu'un aveugle de naissance qui ne sait absolument pas ce que c'est, la lumière, et il entend parler de la lumière. Et là, il y a des analogies qui se forment, très curieuses. Il y a un sens qui... Le toucher se développe énormément. Et l'affectivité de l'aveugle est très grande. Parce que la vue corrige l'affectivité. Tout. Et ceci, alors, du côté affectif, on sait très bien. On n'est qu'à penser quand le chirurgien dentiste creuse en votre dent des abîmes insondables. Et si vous pouviez voir, ça corrigerait beaucoup. Et ça apaiserait énormément. Et vous ne voyez pas. Et vous faites confiance. Et vous laissez creuser. Et le bruit augmente. L'impression de... C'est un jeu extraordinaire de dentiste. C'est un théâtre dont vous pâtissez. Car réfléchir un peu à ça, surtout quand vous avez un dentiste qui est merveilleux, comme ce que nous avons. Un dentiste merveilleux qui est intelligent. Tout à fait, vous voyez, ça fait encore partie, ça, d'une autre manière, mais c'est la souffrance qui intériorise. La souffrance intériorise. C'est tout un monde affectif, passionnel. Il y a toute cette intériorité, je crois que là, on pourrait, vous voyez, au point du descriptif, c'est très important et intéressant de voir combien le vivant demande cette intériorité, intériorité de la connaissance qui limite, qui précise, et l'intériorité affective qui est juste l'inverse, et qui fait qu'on porte en soi cela. Et alors, il y a un passage mystérieux, et qui reste mystérieux au point de vue descriptif, entre ce domaine sensible de la connaissance, imaginatif, les souvenirs, la temporalité vécue dans le point de vue des souvenirs, le passé, le présent, le futur, avec la note affective qui vient compléter. L'affectivité vient compléter tout l'aspect de la connaissance intérieure et sensible. Alors là, il n'y a plus de limite dans l'affectivité, dans les passions. Et puis je passe subitement à un domaine très différent d'une connaissance où il y a la signification universelle. vous êtes dans le monde et vous n'êtes plus dans le monde. Vous voyez, il y a quelque chose d'analogue. C'est dans le corps, c'est bien évident, c'est moi qui pense. C'est moi qui parle. Alors tout le phénomène de la parole lié à l'organe de la bouche. La bouche liée à la mendication, liée à la respiration, puis qui est aussi liée à la communication. Le mouvement du flux et du reflux. La communication par la parole, c'est à l'autre. Je m'adresse à un autre. Marquez, quelquefois, on se parle pour soi-même, quand on a très peur, pour se donner du courage. Alors, et pour rendre la chose objective, c'est l'affectivité demande d'être objectivée. Problème de la psychanalyse, de faire sortir votre affectivité. Et pour ça, il y a un témoin qui vous aide et qui est là pour vous aider. Il y a quelque chose de juste. La question beaucoup moins juste, c'est l'herméneutique, l'interprétation de votre affectivité. Alors, ça, c'est très délicat. Et tout dépendra du système philosophique que vous avez. Herméneutique. Et faire sortir l'affectivité, ah ça c'est bien. Parce que l'affectivité pure vous isole. Et vous isole quelquefois d'une façon telle que c'est comme pour le dentiste. Vous voyez, ça vous donne des abîmes. Ma douleur est la plus grande douleur que tous les hommes ont portée. Jamais un homme n'a souffert comme moi. Vous entendrez ça tout le temps. Et c'est pas vrai. C'est des quantités d'hommes ont souffert. Et des quantités de mères ont souffert. Et des quantités de femmes ont souffert. Mais la souffrance vous isole d'une manière telle que ça vous fait toujours le nombril du monde, au point de vue affectif. Et vous avez besoin de ça. Et vous en gargarisez. Et alors c'est des gargarismes affectifs, imaginatifs, qui moussent. Dès que vous pouvez objectiver, l'intelligence pénètre dedans, par la parole. Ah, vous voyez, ça c'est un phénomène du corps et du psychisme. Alors là, on est dans un domaine terriblement difficile, délicat. Les inter-influences du psychisme qui se passent dans le corps et le point de vue somatique, qui est un problème très intéressant et très important et très difficile. Alors qu'est-ce qui est premier? Ça dépend des domaines. Mais il y a une interférence constante. Et ça, c'est encore le corps. Alors on passe du corps végétatif, animal, comme disaient les anciens. Parce qu'on mange comme un animal. Si on mange humainement, on ne mange pas comme un animal. Mais il y a quelque chose de semblable. Ce que disait au concile, les pères du concile, avec ceux qui étaient invités, nos frères séparés. C'est au bar que l'œcuménisme se fait. Et c'est très ancien ça, parce que quand vous voyez, le bar c'est le puits moderne. Et quand on voit les puits, Abraham vient avec son bétail. Alors c'est Abraham qui boit. Ses fils et ses filles. Il y a ça entre deux. Ses fils et ses filles. Et tout le bétail. Mais c'est très curieux ça. Ça, c'est le point de vue de la vie végétative. Par le point de vue de la boisson. Mais c'est important. Parce que c'est premier. Là-dessus, le psychisme. Qui implique toujours le point de vue imaginatif. Et le point de vue passionnel. Et le dépassement du psychisme. La signification. C'est la barre, le passage. L'affectif n'est jamais universel. Jamais. C'est pour ça que il est tellement fort et il se multiplie de façon telle que ça remplit tout. Je suis le seul à souffrir au monde. Toujours un tout petit peu cette tentation. Ma souffrance est unique, ce qui est vrai du reste. Ma souffrance est unique. Personne n'a souffert comme moi. C'est-à-dire que je n'ai jamais souffert la souffrance des autres, donc ma souffrance est unique. Et c'est juste. N'allez pas dire à quelqu'un pour pas dire « Vous avez beaucoup d'autres souffert. » Saint Augustin dit ça, n'est-ce pas, dans les confessions. Comment ça soulage de dire que d'autres ont souffert. Et dit au fond, en définitive, ça ne soulage pas du tout. Ça ne m'a pas la repris, du reste, cette phrase de Saint Augustin. Dire à quelqu'un « Vous savez, il y a beaucoup d'autres personnes qui souffrent. » Alors, ça ne soulage pas. Mais quelqu'un qui souffre beaucoup, le mettre à soigner d'autres malades, ça c'est différent. Ça objective sa souffrance. Vous voyez, il y a deux thérapeutiques. Soigner d'autres ou dire sa souffrance. Le psychanalyste qui entend la souffrance de l'autre. Ou le prêtre qui entend la souffrance de l'autre. Pas tout à fait la même chose. Parce que le prêtre interprète autrement que le psychanalyste. Et voyez les deux interprétations, les deux herméneutiques différentes. Mais c'est la même matière de souffrance. Faire sortir quelqu'un de son isolement. Son isolement terrible de la souffrance. Alors, ce passage à la signification universelle, où c'est dans le corps et ce n'est plus dans le corps. Dans le corps, parce que c'est moi, et je pense toujours en me servant d'une image. Je ne peux jamais penser sans image. Mais je dépasse l'image. L'image est dans le corps, dans le psychisme, donc dans le corps spirituel, dans un corps très particulier, psychique. Mais c'est lié à mon corps. Et puis, ce troisième moment, la signification qui reste liée et qui pourtant le dépasse. L'universel est un phénomène tout à fait particulier. Le passage entre les deux, je dirais l'abstraction, qui me fait comprendre comment il y a quelque chose qui, à travers le corps, à travers la sensibilité, à travers l'imagination, va dépasser. L'objectivité va naître à partir de ce moment-là. Il n'y a pas d'objectivité au niveau végétatif. C'est mon café, c'est mon lait, c'est mon chocolat, c'est mon miel. Si j'ai un côté et un autre, et puis que je suis très charitable, je dirais c'est aussi pour toi, je t'en laisse un peu. J'avais envie de tout prendre. La vie végétative est terriblement égoïste, égocentrique. C'est normal. C'est mon beefsteak. Et le gosse pleure quand la première semaine, il me donne 100 à ton petit frère. Ah, il faut le couper en deux, il faut le diviser, j'en aurai moins. Mais on retrouve le point de vue terrible de la matière, le divisible dans la vie végétative. Vous commencez à le dépasser pour arriver à l'universel. L'universel, c'est l'antimatière, au sens rigoureux. C'est le dépassement complet de la matière, dans la signification. C'est la signification qui est le support de l'universel et qui me fait entrer dans ce point de vue de quelque chose qui est au-delà de la représentation, au-delà du psychisme. Il y a quelque chose de tout à fait différent, un au-delà, un dépassement. Qui est la signification universelle. Oui, et ça, c'est toutes mes expériences, donc je peux les multiplier, on pourrait passer toute la journée là-dessus. Ça pose un problème pour le philosophe. Et ça, je crois que c'est très important, là. Alors là, c'est vraiment le problème philosophique qui se pose, parce que le savant va décrire et va chercher des lois psychiques, chez le psychologue, des lois biologiques. Et le médecin sera en face point de vue où tout d'un coup ça ne va plus. J'ai mal à ma digestion, ça ne se fait plus. Il y a quelque chose qui ne va plus. J'ai mal à la tête, c'est effrayant. Ça se répercute sur l'homme. Alors on cherchera la cause, les lois. Le philosophe, lui, veut aller plus loin. Il voit cette diversité du corps vivant. Vous voyez, les trois zones. Et je crois qu'il y en a trois. Le végétatif, la chair. Le psychisme et le dépassement du corps. Et il y a un dépassement du corps dans l'émergence de la pensée. Je pense. Et voyez, c'est du côté de la pensée qu'on voit le développement. C'est pas du côté affectif. L'affectivité reste toujours liée au corps. Toujours. Et toujours liée au toucher. Ça, c'est propre de l'affectivité. Du toucher à cette volonté d'aimer. Mais cette volonté d'aimer reste liée à une affectivité sensible. À une affectivité corporelle. Le point de vue du toucher. Tandis que du côté de la connaissance, ah, c'est net. Et la connaissance rectifie l'affectivité. Ça, je peux le voir tout de suite. Elle ordonne l'affectivité. Tandis que dans l'affectivité pure, il n'y a pas. Impossible. C'est le vécu dans toute sa force. Mais c'est le vécu aussi dans toutes ses profondeurs affectives. La psychologie des profondeurs. Hein, comme on dira. Oui. C'est une profondeur psychologique, mais c'est pas une profondeur philosophique. Parce que je sais ce que vous avez comme profondeur, pas très loin. Mais ça nous semble aller très loin. Et quand vous pensez la profondeur du dentiste qui vous hein, alors vous direz, là je touche la profondeur. Ben oui, c'est une profondeur, mais objectivement, quelle est cette profondeur? Pas grand. Pas grand chose. C'est très très curieux, vous voyez, ça il faut le sentir et l'expérimenter pour comprendre alors cette réflexion philosophique que nous allons faire maintenant, qui est une analyse. Je vois qu'en effet que mon corps vivant a trois dimensions. Il a trois dimensions. L'un, dans l'aspect tout à fait substantiel du corps lié au corps matière. Et inséparablement lié au corps matériel. C'est tout le poids de la vie végétative. Et toute la profondeur de la vie végétative. C'est le fondement. C'est le sous-sol, si vous voulez. C'est là où facilement je pourrais avoir une vision comme Descartes. C'est un mécanisme, la vie végétative. Il y a quelque chose de juste. C'est une mécanique assez particulière. Automobile. Hein? Un sens, c'est moi-même qui chauffe la boutique. Parce que quand vous mettez ces choses pour arriver à faire qu'il y a quelque chose qui tient la route. C'est vrai, quand la vie végétative commence à ne plus aller, vous ne tenez plus la route. Oh, aujourd'hui, c'est impossible de me lever. Impossible de me lever, impossible. Alors, on va vous apporter quelque chose pour vous réveiller. Ah, ça va, après, je peux me lever qu'après avoir pris ma tasse de café. Certaines personnes affirment ça, mais d'une façon radicale, absolue. Alors, est-ce que c'est du psychisme? Est-ce que c'est du végétatif? On s'habitue, ça. Moi, je m'habitue à prendre mon petit café au lit. Et ça devient indispensable. Ça devient le premier règlement de la vie religieuse. Le petit café au lit. Qui est habitué à ça dira oh, je ne m'habituerai jamais, je ne m'habituerai jamais, je ne peux pas m'habituer. Oui, donc il y a là quelque chose de très 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 radical de la vie végétative. Le psychisme, c'est une zone intermédiaire anarchique. Dans la vie végétative, il y a des règles, des lois, mais qui sont contaminées hein, par le psychisme. Très contaminé par le psychisme, qui fait qu'il y a des fantaisies là-dedans. Mais Et la cure de ne plus manger, c'est pour retrouver le végétatif dans sa pureté. Pour supprimer toute cette espèce de psychisme qui s'est mêlée à ça et qui a fait que c'est plus très bien. Retrouver les lois du végétatif dans sa pureté. Comme normalement un être humain, mais à cause des tas de conséquences, à cause de la faiblesse, à cause de la maladie, alors il y a des compensations, ça ne peut pas être autrement. Alors on retrouve ça dans sa pureté et tout se rétablit. Alors le philosophe devant ça voit cette diversité et c'est pourtant l'unité. Il y a une unité. C'est moi qui respire, c'est moi qui mange. Vous voyez, et je ne dirais pas c'est moi qui est dans la poussière de la matière, c'est très curieux. Vous voyez, le moi psychologique, le moi arrive avec le vivant. C'est le vivant qui permet de dire moi. Dans la vie végétative, dans la vie psychique et dans ma vie intellectuelle. l'unité entre ma sensation et le réel physique. Donc là encore, je vois qu'il y a quelque chose d'irréductible dans ma connaissance intellectuelle. Je retrouve la même chose. J'assimile et je suis obligé de reconnaître dans le jugement d'existence l'autre. Il n'en est pas moi. Et l'autre est quelque chose qui montre qu'il y a entre nous quelque chose d'irréductible. Deux vivants absolus se compénétreraient. Ils se mangeraient mutuellement, vous voyez, mais intentionnellement, avec beaucoup de respect. Mais il irait pas ce mur de l'autre. L'autre est un mur parce que justement, le vivant n'est pas adéquat au corps matériel. Oui, c'est ça que je crois important à souligner au point de vue philosophique. Hein. C'est qu'il y a une irréductibilité. Parce que c'est un gros problème d'aujourd'hui, vous savez bien, chez les biologistes, entre autres. J'ai un ami qui est professeur de biologie et qui a lancé l'Institut de la vie et me dit que ça m'intéresse de voir les réflexions qu'il peut dire. Quand il réunit ses savants, il dit il y a deux catégories de biologistes aujourd'hui. Ceux qui ramènent tout au monde matériel. Et ceux qui non disent dans le vivant, il y a quelque chose d'irréductible à la matière physique. Donc à la chimie. Alors ils appellent les spiritualisés ceux qui réduisent tout à la matière. Et c'est intéressant parce que ça montre bien que si je me place à l'intérieur du vivant, c'est pas si commode que ça. Il y a la tentation de tout ramener à la vie. Alors, il faut distinguer les deux. Je crois que si on est dans une objectivité totale de l'observation, on est bien obligé de montrer que le phénomène du vivant a quelque chose d'irréductible à la matière. Et que cette irréductibilité à la matière fait que même chez l'homme, il y a toujours quelque chose qui n'est pas entièrement assumé par sa vie. Alors on donnera des raisons, on essaiera de comprendre, mais il y a quelque chose, je le touche du doigt. Et la mort est là comme un signe. C'est pour ça que je soulignais que la mort relève de la matière. Et c'est l'irréductibilité de la matière par rapport à la vie. Et cependant, entre le monde physique et le monde du vivant, il y a une harmonie. Le monde physique est pour la vie. Ça, c'est le philosophe qui le dit. Et pour la vie, donc, il y a une harmonie entre les deux. Ce qui explique comment on peut les confondre en fonction de cette harmonie. S'il n'y avait aucune harmonie, il n'y aurait pas de danger, on ne les confondrait jamais. Tandis que du fait qu'il y a une harmonie, on peut les confondre. Parce qu'on peut regarder uniquement cette harmonie. Oui. J'allais presque dire que du côté des sensibles communs, il y a une confusion possible. Pour les sensibles propres, pour arriver à distinguer le domaine vital du domaine non vital, la matière vivante et la matière non vivante. Alors, à partir de ce moment-là, se pose la question : qu'est-ce qui explique cette unité dans cette diversité ? Comme cette diversité dépasse le corps, dépasse la matière. Et comment la matière dépasse le vivant? Il faut trouver quelque chose, une cette diversité de mes opérations vitales et source de cette unité qui va jusqu'à la matière. C'est mon corps. Et je ne dis pas qu'il y a quelque chose dans mon corps qui n'est pas mon corps. C'est mon corps. Et je dirais, c'est ma mort. Intrinsèque à moi. Si je suis lucide jusqu'au bout, je dirais que c'est ma mort. Donc, il y a une source qui est au-delà de la vie végétative, au-delà de mon psychisme, et qui peut toucher ces deux extrêmes, l'au-delà de la matière, et toucher l'irréductibilité de la matière par rapport à mes opérations vitales. Et cette source, on l'appelle l'âme. Et pour le philosophe, c'est très important, parce que toutes les traditions religieuses impliquent cette dualité de l'âme et du corps. Toutes les traditions religieuses. Alors, est-ce que ces traditions religieuses sont des mythes ou pas? Et en réfléchissant sur ces diverses opérations vitales, j'induis la fameuse induction de l'âme, principe de vie et principe d'être, qui est ce qui est présent cette diversité et qui maintient dans cette diversité quelque chose d'un qui n'est pas la diversité et qui pourtant est présent dans la diversité. Et je poserai à ce moment-là l'âme comme principe de vie. Alors comprenons bien, j'ai une connaissance affective de l'âme. Elle est très importante. C'est la connaissance que j'ai de mon intériorité. Je peux aimer cette intériorité. Je peux aimer d'être un peu seul et de réfléchir, de penser. Je peux aimer de sentir ma souffrance. Manière de s'approcher de la souffrance. C'est pas du sadisme. C'est moi. Je m'aime plus que ma souffrance. Normalement. Mais quand la souffrance est telle, je n'arrive plus à m'aimer. Et c'est là la tentation de disparaître. Mais autrement, je m'aime. Et l'amour que j'ai pour moi transforme ma souffrance. C'est encore moi. La souffrance creuse, 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 creuse en moi. Mon intériorité. Et si j'aime cette intériorité, je ne chasse pas cette souffrance. Je dis cette souffrance, elle me rend plus vulnérable. Elle me rend plus accueillant. Parce qu'elle augmente mon intériorité. Or, je ne suis accueillant vis-à-vis d'un autre que quand j'ai cette intériorité. Quand je suis une brute. Tous les autres, je les chasse, parce que c'est l'extériorité. Tandis qu'au contraire, quand je vis dans une certaine intériorité, que j'aime cette intériorité, je deviens accueillant. Et la souffrance augmente cette intériorité. Il y a les deux sources d'intériorité. La connaissance, l'accueil que fait l'intelligence, grâce à l'universalité. Et l'accueil affectif, grâce à une intériorité toujours plus profonde, plus personnelle, plus individuelle. Et par là, j'ai une certaine connaissance. Cette intériorité, ce n'est pas mon corps. C'est quelque chose qui est dans mon corps, mais qui n'est pas mon corps. Alors, presque c'est pas mon âme. Et là, je touche expérimentalement mon âme. Puisque je touche cette intériorité qui n'est pas mon corps. Mon corps est à l'état brutal, c'est l'extériorité. C'est quelque chose qui me mûre. Et en même temps, quelque chose qui me met en contact avec tous les autres. J'ai donc cette intériorité qui me donne une connaissance affective de mon âme. Et cette connaissance affective de mon âme me pousse intellectuellement à découvrir qu'est-ce que c'est que cette source cachée d'unité. Et cette source cachée d'unité saisit à la fois toute ma vie végétative, toute ma vie psychique, toute ma vie intellectuelle, et saisit jusqu'à mon corps comme matière. Alors, c'est à partir de là que je vais essayer de préciser cette âme humaine. Oui. C'est mon moi humain. C'est moi. Voyez la différence, hein, du corps et de l'âme. L'âme, je la saisis par l'intériorité, par l'immanence. C'est pour ça que je n'ai pas envie de dire l'âme de l'homme, tandis que je dis du corps de l'homme. Parce que l'âme est saisie tout de suite comme ce qui est moi. C'est l'âme humaine. Cette âme humaine a ceci tout à fait particulier, d'unique. C'est que elle détermine radicalement mon corps. Et elle lui donne quelque chose de très nouveau. Cette organisation d'une vie végétative. Corps vivant implique cette dualité. Matière et corps, matière et âme. Corps et âme. Mais l'âme dans le corps fait que le corps devienne animé. Devienne un corps organique. Et je suis bien obligé de poser ces deux aspects puisque j'ai d'abord compris qu'il y avait en moi un corps qui m'apparentait à la matière. Et cette matière, cette potentialité qui est en moi, n'explique pas cet organisme vital que représente ma vie végétative. Tout cet ordre extraordinaire de ma vie végétative, avec la complexité des organes de ma vie végétative. On les verra ensuite. Ici, je saisis d'abord ça, que ma vie végétative implique cette diversité, cette unité. Et il y en a des interférences multiples entre les deux. L'âme est ce qui détermine le corps. Alors normalement, le corps devrait être totalement déterminé par l'âme, dans une unité substantielle. Et c'est vrai, il y a une unité substantielle fondamentale. Je ne peux pas aller au-delà de cette unité. Et cependant, je suis bien obligé d'affirmer que cette vie végétative qui peut avoir du plus et du moins, la santé, la croissance et la désagrégation. Il y a une montée, une descente. Il y a une croissance, un haut palier, et puis une descente. Comment expliquer ça? Ça prouve que l'âme qui détermine mon corps et qui réalise en moi cette vie végétative n'est pas totalement victorieuse de la potentialité de la matière. Je retrouve donc là ce qui, dans mon corps vivant, demeure sauvage, au-delà de la formation. C'est un fait, puisqu'il y a la mort. Et la mort montre ça, la victoire de l'anarchie, alors que l'âme organise, l'âme permet l'assimilation immanente. L'âme est faite pour ça, organisée au plan de ma vie physique, au plan de mon être physique. Organiser cela de la manière la plus parfaite qui soit. Et ça s'impose à moi. Je le constate. Je n'ai pas une capacité de changer ma vie végétative. Ma vie végétative s'impose à moi. Je suis né avec un foie fragile. Alors on peut évidemment essayer de le rendre un peu plus. Mais quand je sais qu'il y a un atavisme de ce côté-là, je suis né avec un cœur fragile. Parce que mon père est mort, du moins a eu des attaques, mon grand-père est mort de ça, et ainsi de suite. Donc il y a une faiblesse. Ah, mais je constate ça. Je constate ces dispositions et cette information. L'âme me donne mon autonomie et mon corps me lie à tout un atavisme où il y a des dispositions. Et ces dispositions ne sont jamais totalement informées. Alors que ça devrait l'être, puisque l'âme est supérieure au corps, donc elle devrait totalement dominer. C'est donc là une possibilité d'anarchie qui caractérise ma vie végétative. Ma vie végétative est à la fois ce qu'il y a de plus déterminé en moi. C'est vrai, c'est très déterminé. Ce qui explique toutes les lois scientifiques au niveau biologique. Il y a des déterminations très nettes. Et en même temps, c'est là où demeure la possibilité la plus radicale d'anarchie, la mort. C'est vrai, et il faut le reconnaître, que mon psychisme pourra aider beaucoup cette anarchie. C'est sûr. Ce que je disais tout à l'heure, les interférences entre le psychisme et le somatique. Forme ce corps pour en faire un corps vivant, en fait un corps vivant, capable de sentir. Il y a donc du côté du corps une évolution telle que certains organes permettront que l'âme s'il y a plusieurs âmes ou une seule, j'ai dit l'âme que j'ai posée, va pouvoir informer ses organes d'une manière telle que ses organes auront une subtilité toute spéciale, quasi spirituelle, pour être des réceptacles qui recevront des messages. Son organe physiologique et l'œil dans sa vitalité propre. Et la vitalité de l'œil n'est pas la même que celle de la main. Et je vois, je comprends. constate qu'il y a là quelque chose de tout à fait nouveau, où l'âme a une importance encore beaucoup plus grande que dans la vie végétative. Parce que justement, l'âme est capable de transformer par la connaissance tout ce qu'elle reçoit, sans pouvoir encore lui donner une signification propre. Elle reçoit cependant tous ces messages, point de vue du toucher, jusqu'aux sensations de l'œil, jusqu'à la vision. Il y a toute cette gamme de la vie sensible, et cette vie sensible demande de s'achever dans l'imagination, où l'immanence est beaucoup plus complète, parce que ça, c'est le domaine subjectif. La subjectivité transcendantale apparaît avec l'imagination. Là, je suis maître de toute l'organisation que je veux, alors que dans mes sens, pas du tout. Alors, vous voyez, si on a le temps, on verra la différence de l'immanence de la vie végétative et de l'immanence de la vie sensible. Il y a deux immanences très différentes. Et il y a une troisième immanence, celle de l'imagination. Mon âme là, mon âme imaginative, c'est-à-dire cette capacité que j'ai d'imaginer, qui implique quelque chose de sensible, je ressens le sensible, a cependant une capacité prodigieuse d'immanence, d'organiser. J'organise mon imagination. Je ne dis pas que j'organise comme je veux, mais je constate que c'est moi qui l'organise. Et je sais que mon monde imaginatif est très différent de l'ordre que je vois. C'est un ordre qui vient de moi, il est subjectif. Et je vois ça à travers mes rêves. On aura pu vivre avec quelqu'un pendant toute la journée. Et si ces deux personnes qui ont vécu l'une à côté de l'autre pendant la journée ont des rêves la nuit, les rêves seront différents. L'organisation des rêves sera très différente. Alors qu'ils auront vu les mêmes meubles pendant toute la journée, ils auront mangé les mêmes aliments, ils se seront vus. Et cette chose très curieuse, le vivant, par l'imagination, se rattrape dans son autonomie. L'autonomie de l'imagination est une chose farouche, extraordinaire, dans l'ordre de la connaissance sensible. C'est le lieu des premières synthèses. Et donc vraiment de l'autonomie, puisqu'il n'y a pas d'autonomie sans synthèse. Et c'est le lieu de ces synthèses, dans l'ordre de la connaissance. Une âme propre à l'imaginaire. Est-ce que l'animal a l'imagination? Aujourd'hui, on pense que oui. Aristote disait déjà. C'est très difficile à voir. Et je vois qu'à côté de moi, il y a des personnes plus ou moins imaginatives, selon que leur affectivité est plus grande. Curieux que l'affectivité et l'imagination, ça va de pair. Et l'affectivité augmente énormément l'imaginaire. Énormément. Dans le sens de toute voile dehors et dans le sens de l'introspection. Et c'est là qu'on verra tout de suite les deux psychologies totalement différentes. Introverti, extraverti. Ça, c'est l'imaginaire lié à l'affectivité. C'est l'imaginaire qui structure en moi, synthèse, ces espèces d'autonomie, ces petits îlots sensibles. Je suis dans la vie sensible. Et c'est l'âme liée à toute l'intentionnalité. À toute l'intentionnalité. sensible. C'est quand même très très curieux l'imagination. C'est quelque chose de très très important au point de vue du corps. Puisque c'est lié au corps. Et un corps subtil. Un corps psychique. Et c'est lié à l'âme végétative. Et lié à l'affectivité. Alors le troisième domaine, on ne va pas le voir maintenant, c'est le point de vue de l'âme source de ma pensée. Et c'est là où se pose le problème très difficile. Y a-t-il trois âmes? Ce serait beaucoup plus simple. Trois âmes en moi, une âme végétative reçue par mes parents. Oui, tout l'atavisme de la vie végétative, toutes les déterminations de la vie végétative. Une âme psychique. Une âme noétique. Il faut employer le mot noétique, ça fait mieux. Une âme spirituelle. Qui pense et qui aime. Et l'équilibre de ces trois âmes est très différent selon les différentes personnalités. J'ai trois âmes en moi. Alors est-ce que je peux le dire philosophiquement? J'ai trois âmes en moi. Vous voyez, là, j'expliquerai cette chose très très curieuse, ce lien de l'âme et du corps, qui se fait selon trois manières différentes, et tout à fait différentes.